La Voz Sin Fronteras.
La Voz Sin Fronteras.
Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers.
صوت بلا حدود.
La Voix Sans Frontières.
Voici donc des sons qui viennent de l'intérieur. Donc là, je viens de prendre des sons. Des personnes qui se trouvaient à l'intérieur, donc c'était assez fort de les voir, à deux pas en train de taper sur les fenêtres et de vouloir sortir et communiquer avec nous. Voilà, c'est vraiment émouvant.
C'est
bonjour, vous êtes en l'émission de La Voix Sans Frontières. Vous donnez la parole aux sans-papiers. Ils diffusent des infos, créent des débats et des récoltes des témoignages autour de lutte des sans-papiers, mais aussi sur leur vie au quotidien. L'idée de l'émission est née de discussion sur comment relancer une énergie et une envie de lutte. En mettant principalement en français et en arabe, nous voulons ainsi créer un espace de rencontre. Pour le contact, il y a un email, c'est vsf1000@hotmail.fr. Je répète, vsf1000@hotmail.fr. Pour l'éditeur qui va nous appeler par téléphone, c'est sur 02-73-20-450. Je répète, 02-72-0450.
بونجور انتم على مرحبا بكم معنا على امواج راديو بانيك 105.4 FM في برنامجكم الشهري صوت بلا حدود. صوت بلا حدود يعطي الكلمه للمهاجرين الغير شرعيين, يذيع الاخبار, يخلق نقاشات ويجمع شهادات حول نضالات المهاجرين الغير شرعيين, ولكن ايضا حول حياتهم اليوميه. نشات فكره هذا البرنامج من مناقشات وحوارات للوصول الى اهداف الاعتراف بحقوق المهاجرين الغير شرعيين ولخلق مجال للنقاش واللقاء. يذاع البرنامج باللغتين العربيه والفرنسيه. صوت بلا حدود يشير إلى صوت وآراء المهاجرين الغير شرعيين وكذلك إلى طريق بدون حدود. نرحب بكل من يريد المشاركة معنا والانضمام إلينا. فريق البرنامج هو أنا سعيد, فيصل, أنس, مايكا, سيلين, غواندولين والتقني جيوم. يذاع البرنامج كل أسبوع رابع من كل شهر ويعاد بعد أسبوعين. للمشاركة في البرنامج الاتصال بالرقم 0002 73-20-450 أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني vsf1000@hotmail.fr. نترككم الآن تستمعون إلى هذا, ثم نلتقي بعدها لنكمل باقي فقرات البرنامج.
Aujourd'hui, on va parler des centres fermés et la politique des déportations. Les expulsions forcées qui se font en ce moment en Belgique.
Et les actions qui se font contre les expulsions aussi.
Oui, mais on va d'abord donner une petite introduction sur l'existence des centres fermés, d'où ça vient, cette stratégie, pourquoi ça a été créé et tout ça.
La plupart des centres fermés en Belgique n'existent pas depuis si longtemps. Le premier centre fermé fut construit en 1988, mais les autres sont construits durant les années 90. À cette époque, le gouvernement voulait augmenter le nombre d'expulsions sous la pression du Vlaams Belang. Ce parti d'extrême droite avait publié son programme de 70 points, très critiqué à ce moment-là, et toujours, dans le point 41 qui était expulser véritablement les clandestins et point 46, construire des centres fermés. Donc, sous un gouvernement pas d'extrême droite, ces points sont quand même réalisés.
وكتقديم لهذا الموضوع سنتحدث عن لمحة تاريخية عن المراكز المغلقة. أول مركز مغلق تم إنشاؤه ببلجيكا في سنة 1988، وفي سنوات التسعينات تم إنشاء مراكز أخرى تحت ضغط فلامس بيلانغ الذي أدرج هذه النقطة في برنامجه السياسي.
En Belgique, il y a 5 centres fermés à Bruges, Merksplas, Votem, Melsbroek et Steenokerzeel. Un sixième est en construction aussi à Steenokerzeel pour des sujets difficiles, comme l'ancienne ministre d'immigration l'a défini. Finalement, il y a un centre INAD à Zaventem qui est en zone neutre. Chaque année, 7000 personnes se trouvent en centre fermé. Plus ou moins, 70% est effectivement expulsé de la Belgique. La durée légale de la détention est de 2 mois, mais celle-ci peut être prolongée jusqu'à 8 mois ou plus.
توجد 5 مراكز مغلقة في بلجيكا، وهناك مشروع لإنشاء مركز سادس، إضافة إلى مركز زافنتم الذي هو يوجد في منطقة محايدة. وكل عام يمر في هذه المراكز حوالي 7000 شخص، ونسبة الإبعاد هي بحوالي 70%. المدة القانونية للحبس هي شهرين، ولكن يمكن تمديدها إلى 8 أشهر.
Des personnes en séjour irrégulier ou des demandeurs d'asile qui reçoivent un négatif de l'Office des étrangers belges recevront un document ordre de quitter le territoire. Chaque année, quelques milliers de personnes sont arrêtées pour être expulsées s'ils n'acceptent pas de retourner volontairement ou d'entrer dans un programme de retour volontaire. De ces personnes arrêtées, 32% plus ou moins étaient éloignées effectivement.
وكما نعرف فإن هذه المراكز مخصصة للمهاجرين المحرومين من أوراق إقامة أو طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، وهم عندما يحصلون على أمر بمغادرة التراب. وفي كل عام حوالي آلاف من الأشخاص يتم توقيفهم وترحيلهم إذا لم يقوموا بذلك بصفة إرادية.
Le nombre d'expulsions de 8000 par an et ils sont toujours organisés depuis un centre fermé. Depuis ce centre, la Belgique essaye de rassembler les documents nécessaires pour expulser les personnes détenues et elle doit obtenir l'accord du pays où la personne sera envoyée. 25 à 30% des détenus sont libérés. Pour les expulsions, la violence est admise, si elle est en proportion avec le but. Les centres fermés opèrent comme des prisons. Tout y est organisé collectivement. Se lever, manger, se laver, la détente, dormir, etc. Et tous les déplacements se font avec des agents. Il n'y a pas d'assistance psychologique et la permanence médicale est très limitée. L'objectif des psychologues et assistantes sociaux est uniquement de préparer les personnes à leur expulsion.
وفي حقيقة الأمر فهذه المراكز المغلقة هي سجون. يتم تنظيم كل شيء فيها بشكل جماعي. هناك نظام محدد يجب الالتزام به، وقت الاستيقاظ، الأكل، للراحة، وكل شيء مراقب. حرية هي جد محدودة، ورغم تواجد أخصائيين نفسيين وخدمات اجتماعية فإنها مجرد مرافقة للعودة عند الترحيل.
La Belgique a été condamnée plusieurs fois pour les régimes dans ces centres fermés et pour l'enfermement des enfants. Entre autres, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Belgique en 2003, en 2008 et en 2010. Et puis il y a un argument économique aussi, le coût journalier d'une détention d'une personne en centre fermé estimé plus ou moins à 40,5 € en 2009, ce qui revient à 1 200 € par mois. Pour comparer, le coût annuel investi par la communauté française pour financer les études supérieures d'un étudiant s'élève en moyenne à 5 096 €. Donc ça fait 14 € par jour. Donc c'est plus ou moins un tiers de ce que coûte un sans-papier dans un centre fermé.
ويجب العلم بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدانت بلجيكا 3 مرات على نظام مراكزها المغلقة. ولا ننسى الجانب الاقتصادي أيضا لهذا النظام. فيوم يكلف حوالي 40 €. وهو مجموع الذي يعطي مجموع 1200 € في الشهر. إذا قارناه مع المبلغ المخصص للدراسات العليا الذي يصل إلى 5000 € في السنة والذي يعود إلى 14 € في اليوم.
L'enfermement et le traitement en soi ont beaucoup des conséquences psychologiques pour les personnes. Mais à ça se rajoute que pendant la détention administrative, le détenu reçoit un minimum d'informations souvent inexactes au sujet de la durée de la détention et des aides provisoires. Les centres fermés sont donc l'outil répressif de la politique d'immigration, mise en place pour soutenir l'idée illusoire d'une politique dissuasive. Elle prive la liberté à des milliers de personnes par an.
وإلى جانب الجانب القانوني والاقتصادي فهناك جانب إنساني، فلا يجب إهمال المشاكل النفسية التي يعاني بها الأشخاص الذين مروا بهذه التجربة. وأيضا هناك مشكل نقص المعلومات، وبذلك فإن هذه المراكز المغلقة ما هي إلا أداة قمع لسياسة الهجرة لمحاولة في محاربتها بطريقة قمعية.
Donc là, en fait, on vient de jeter une série de balles de tennis aux gens qui sont à l'intérieur. Une série de balles de tennis avec des mots dessus, un petit crayon à l'intérieur. Donc de l'optique, en fait, de recevoir des messages. Donc l'action ici veut vraiment communiquer avec les gens qui sont à l'intérieur. Donc les balles de tennis sont l'un des moyens qu'on a utilisé. Et là, on va leur demander de nous informer sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors, salut les escaladeurs. Qu'est-ce que vous avez fait au juste ?
On a mis deux bannières. Donc une bannière avec « Tell us your story », donc « Dites-nous votre histoire » pour avoir des témoignages des gens à l'intérieur. On l'a mise juste un tout petit peu trop tard parce que les gens traversaient la cour à ce moment-là pour aller déjeuner, à mon avis. Et les gardes les ont un peu pressés pour pas qu'ils voient la bannière et le numéro de téléphone. Mais je crois que voilà. Et on a vraiment, d'en haut, on a vraiment une vue sur tout l'intérieur du complexe. Ouais. Et donc là, on voit pas beaucoup de barbelés, mais il y a beaucoup, beaucoup de barbelés. Ah ouais, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas sortir.
The nation, stop deportation!
We call them lock-ons, that means concrete blocks where we have attached our bodies in. This in order to prevent that any of the vans that might transfer or deport you is stopped. So at least for the day of today, it's not possible. Because we think that deportations are not right. You are all welcome here in Belgium, according to us. So please keep on calling us. We can call you back if you don't have any credits. It's 0486-1649. 8-5-23-49. Donc si vous pouvez nous appeler, nous allons écouter votre témoignage, comment c'est dedans. Parce que nous ne voulons pas que vous êtes enfermés comme ça. So please call us.
Alors, comment ça se passe ?
Le blocage.
Ça se passe bien.
Ça fait combien de temps que tu es en train d'être dans le cône, en train de bloquer la grille d'entrée?
2 heures. Environ 2 heures.
Et voilà, pas trop froid.
Je pense que j'aurais pas plus froid si j'étais pas dans un locon en fait.
Vous êtes lié par un lien d'acier.
She speaks English.
Or Dutch.
It's alright for you?
I'm fine. Okay. Yeah, perfectly fine. Yeah. I mean, we're more fine here than those people inside that prison.
No border! No nation! Yeah. Stop deportation! Clémence,
est-ce que tu peux un peu voilà, expliquer comment ça s'est passé le début de la journée, le déroulement jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
We arrived here at the closed detention center in Merksplas at about 8 o'clock in the morning. So at that moment, all the people who are detained inside, which are about 170 men, were having breakfast. In the beginning, it was a bit difficult to find contact with them, but for the moment, it looks like they are in a building right behind us, and they're phoning us now on a phone number that we attached to the barriers, because the idea is to really get their testimonies outside, because there's a lot of stories to be told of how these people are being detained. If you read them, if you hear them, it's really shocking. Because we all think, you know, Belgium is a nice country, it's a democracy, but actually what is happening in these detention centers and the deportation policy that our government has is actually really something to be afraid of, because we're sending back people to countries that are really not safe for them, where they already have suffered. For example, last week or 2 weeks ago, there was a deportation of an African person that was going to be sent back to the country where his whole family was murdered. So it's totally unresponsible, actually, what our government is doing. So stories like this, we really have to bring them out to let people know that we shouldn't agree with this.
Break that wall!
No border, no nation!
Stop deportation!
No border, no nation!
Stop deportation!
Hello?
Voilà, excuse-moi, j'ai pas de crédit sur mon GSM. Voilà, je suis dans le centre, alors j'ai juste dit mon cas, alors voilà, j'ai déposé mon article, l'article 9 bis, pour me faire mes papiers, pour reprendre mes papiers, parce que j'ai 6 ans d'ici, alors j'ai le droit, ils ont ouvert ça pour régularisation des gens qui n'ont pas de papiers pour faire de la situation des gens. Ouais, ils ont entré à la maison, ils ont fouillé la maison, ils ont pris mon ami, ils ont pris moi, ils ont pris beaucoup de gens du quartier. Alors, dans l'Europe, le centre est 20 jours, maximum un mois. Ici, ils te gardent, il y a des gens ici, 4 mois et demi, jusqu'à 5 mois. C'est pas normal, tu te sors comme un fou. Ah, c'est pas, il n'y a pas de droit de l'homme ici, franchement. Hein. C'est difficile. Hein. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des êtres humains, c'est tout. Nous veux la liberté.
I see you that you are not alone, and we are trying to support you. How is possible? We would like to see all of you free. Our movement is everybody's right. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight.
Ce que vous avez entendu juste maintenant, c'était dans l'actualité, parce que c'est une action qui a passé hier, vendredi le 28 janvier, le matin, jusqu'à midi, devant le centre fermé de Merksplas. C'était une action en blocage. Il y avait une quarantaine d'activistes qui protestaient au centre fermé de Merksplas contre la politique d'immigration du gouvernement belge qui enferme des personnes sans papier et ferme les frontières. En bloquant des portes d'accès pour les véhicules, Ils souhaitent éviter que des personnes soient expulsées vendredi ou qu'elles doivent déménager vers un autre centre. Notre gouvernement arrête ces gens et les enferme comme des criminels, uniquement parce que leurs papiers ne sont pas en ordre. En leur faisant subir une expulsion, on leur fait perdre pour une seconde fois leur dignité et toute valeur humaine, expliquent les activistes. Par leur action, ils désirent également faire sortir la voix des migrants derrière les grilles en hissant des banderoles sur lesquelles sont inscrits des numéros de téléphone, afin que les détenus puissent faire connaître leur histoire. Ce sont des prisons, dit un témoignant africain qui est dans le centre. Ce sont vraiment des prisons, ce ne sont pas des centres fermés. Vous êtes traité comme un criminel et barricadé. Pour plus d'informations sur cette action, il y a un blog qui a été créé parce que l'action, ça s'appelait Getting the Voice Out. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette action de hier, c'est gettingthevoiceout.wordpress.com. Donc, gettingthevoiceout.wordpress.com. Mais ici, aujourd'hui, on a aussi des activistes avec nous qui vont parler un petit peu plus de cette action d'hier. Mais avant, on va faire un petit résumé en arabe pour les écouteurs arabophones.
قد استمعنا إلى تسجيل لمظاهرة تلقائية مرة البارحة أمام مركز ميرك بلاس، والهدف منها كان منع دخول أو خروج سيارات لترحيل الأشخاص المسجونين هناك، وقد تمكن الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرة في دخول في اتصال مع المسجونين، وكانت هناك بعض الرسائل التي تتحدث عن نفس الشيء، وهي عن ظروف القاسية، عن حالة اليأس التي يعيشها هذه الأشخاص.
Alors, c'est pour discuter sur l'action qui a été hier devant le centre fermé. Il paraît qu'il y a 31 ou plus de 31 de personnes. Et aussi, il paraît que c'est une action qui est réussite. Vous pouvez me dire c'est qui a organisé cette action et comment ça a été avec la police? Parce que souvent on a entendu qu'il y a des problèmes toujours avec la police comme action devant le centre fermé.
En fait, c'est un collectif informel, c'est un réseau de personnes qui sont intéressées par la question des centres fermés, qui se sont retrouvées de façon assez clandestine, parce que c'est pas des actions qu'on peut annoncer à tout vent. Et sur place, ben la police intervient sur place en constatant qu'effectivement le centre est fermé. C'est pas la première fois que ça arrive, donc ils sont pas tellement surpris. Mais oui, effectivement, il pourrait avoir des réactions un peu violentes, mais on est assez pour la négociation en fait, en général dans ce type d'action. Bah, c'est vrai que ça fait que c'est pas très violent, c'est pas une confrontation violente. On prévoit toujours qu'il puisse y avoir des débordements de la police.
Ça, c'est mais souvent,
mais ça se passe plutôt bien quand on négocie, c'est-à-dire quand on annonce pourquoi on est là. Et en fait, c'est un truc qu'on sait assez bien faire en Belgique, c'est négocier. C'est et donc là, on négocie avec la police et on a réussi à négocier l'horaire auquel on.
Il n'y a pas de blessé hier ou après la violence, quelque chose comme ça, non?
Non. La principale arme de la police, son principal moteur, c'est la peur. Et quand on la désamorce, on se retrouve dans une situation de négociation. Donc,
Alors ça... Parce que cette fois-ci, la police n'est pas intervenue. Hein. Donc, ils étaient là, ils étaient présents. Mais c'est le système de lock-on. C'est un matériel de béton. C'est un gros bloc de béton qu'on met devant le centre, devant les portes. Comme ça, les transports ce jour-là ne peuvent pas se faire. Donc, le transport aux aéroports, tu vois, pour des expulsions, même l'inverse, les gens qui sont arrêtés ne peuvent pas être mis dans le centre fermé. Donc, c'est dans les deux sens. Et juste être là avec les blocs de béton, avec des gens qui sont attachés aux blocs de béton, ça, la police ne peut rien faire à ça. Parce que c'est un team spécialisé, c'est le locum team de la police. Ils ne sont que 8 personnes à la police qui peuvent venir...
défaire, scier les dispositifs de locum.
Ouais.
C'est-à-dire débloquer le...
Délier le lien des personnes entre elles.
Il faut des spécialistes alors.
Qui bloquent. Il faut des gens qualifiés pour faire ça, parce que ça peut être très dangereux. Si tu coupes n'importe comment, etc., tu peux effectivement blesser les gens.
Alors mais... c'était une bonne idée pour les activistes alors.
Oui, mais ça fait longtemps que ce dispositif a été mis en place. De telle manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir, qu'on ne puisse pas délier des chaînes humaines et qu'on ne puisse pas les délier aussi en argumentant sur le fait que les gens résistent au fait qu'on les délie. C'est-à-dire que le système locum, tu es attaché, on n'a pas accès à ce qui te lie à l'autre personne. Mmh. En même temps, tu n'as pas à la tenir en fait. C'est... Tu es tenu. Donc tu ne résistes pas au fait qu'on te...
En fait, combien d'activistes qui ont fait cette action, matériel comme ça?
On a bloqué 2 accès du centre,
ouais.
Et donc il était nécessaire seulement de 4 personnes, c'est-à-dire 2 personnes liées devant chaque porte.
Ok. Et s'il y a une communication avec les sans-papiers ou sinon les gens qui sont à l'intérieur de centres fermés, s'il y a une communication avec eux, est-ce que la police a contrôlé les activistes avant? Parce que souvent qu'on a entendu qu'il y a une action devant un centre fermé, la police toujours elle est là, lui le premier, contrôle tout le monde. C'est-à-dire déjà s'il trouve un sans-papier avec les activistes, il est déjà rentré direct au centre fermé parce que c'est le plus proche. Et est-ce que vous avez eu cette fois la même habitude de la police?
C'est pour ça que tu vois, ces actions-là, ce n'est pas avec des sans-papiers. Ce n'est pas possible pour faire des actions avec des gens sans-papiers.
C'est dangereux pour eux.
C'est dangereux pour eux. Parce que cette fois-ci, on n'a pas été arrêté, mais les autres fois, c'est souvent des arrestations. Et être mis dans la cellule pendant 12 heures. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait, mais quand même, le locum team était à côté. Donc, si on allait rester, je pense, plus longtemps, parce qu'on est resté là que 4h30, je pense, si on était resté plus longtemps, là, ils vont nous arrêter, ça c'est sûr.
Alors, pour le contrôle d'identité, vous n'avez pas eu cette fois?
Cette fois-ci, non. Mais souvent, c'est contrôle d'identité.
Et vous pensez que la politique de police, ça devient changée ou c'est juste une politique qui joue, ça dépend de l'action ou...
Non, c'est plutôt la décision de la police locale sur place. Donc ça change à chaque fois de quelle action dans quel centre fermé. Parce que c'est à chaque région, à Belgique, il y a une autre police locale et c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas.
Vous ne savez pas combien de policiers étaient sur le terrain cette fois?
Il n'y avait pas beaucoup. Il y avait
3 ou 4 quarts de police qui n'étaient pas bondés. Donc, il devait être, peut-être une vingtaine sur place et un petit peu autour parce que, bon, ils surveillaient effectivement qu'on respecte le protocole.
Protocole d'action.
De sortie. Quand on est parti, on a été accompagné vers la sortie.
Alors, j'ai entendu que vous aviez bloqué la porte pendant 10 heures. Et comment ça a été en ce moment-là? Comment ça se passe en ce moment-là que vous avez bloqué la porte? Parce que la porte est bloquée, il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort. La police est sur place. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, là, cette fois-ci, on avait une autre type d'action en plus. C'était sortir des voix des gens à l'intérieur. Parce que, comme tu dis, la communication avec des détenus, une fois que tu es sur place, c'est pas facile. Parce que tout le monde est dispersé. C'est un très grand bâtiment avec... à Merck's Place, il y a 4 parties différentes. À un certain moment, je pense, très tôt le matin, ils étaient tous à la cuisine en train de faire un petit déjeuner. Et après, il y avait peut-être des gens qui pouvaient... normalement, ils avaient prévu d'avoir un moment libre dans le cours. Mais à cause que nous, on était là, ils n'ont pas eu cette pause, tu vois, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit communication entre nous. Donc, c'est toujours souvent comme ça dans les actions. Donc, cette fois-ci, on a dit parce qu'il n'y a qu'un mois maintenant, ou trois mois, je pense qu'il y a une loi que les gens, les détenus, peuvent garder leur portable dans le centre fermé. Normalement, ils n'ont pas de portable, ils n'ont pas de moyen de communiquer avec l'extérieur. Mais une exception, c'est que c'est que les portables qui n'ont pas de caméra là-dessus, ni un appareil photo. Donc, c'est mieux d'avoir un ancien portable. Comme ça, tu peux le garder. Donc, et alors, on avait mis un gros banderole très haut et on avait le mégaphone et on disait « Appelez-nous avec votre téléphone. » Comme ça, nous, on vous rappelle et on peut discuter. On peut avoir votre témoignage et on peut enregistrer vos témoignages et essayer de le faire sortir à la presse, quoi. Et donc ça, ce qu'on a fait, en effet, donc on a été appelés à plusieurs personnes qui nous appelaient de l'intérieur, qui nous a fait des témoignages. Donc tout ça maintenant, c'est encore à monter, à écouter, et on va vraiment faire utiliser ça encore avec trouver des journalistes, des autres presses peut-être pour sortir ça. Même aussi utilisé pour que la Ligue des droits de l'homme ou des avocats peuvent quand même encore intervenir pour les gens là. Parce qu'il y avait vraiment des cas vraiment extraordinaires aussi que tu dis, mais tous, c'est pour tous la même chose, hein, mais il y a vraiment des choses là qui, cette fois-ci, il y a une répression énorme cette période-ci. C'est à cause de la fin de la campagne de régularisation. Et vraiment, il y a des choses qui, ça va pas, quoi, tu vois. Les gens sont arrêtés tout de suite. Ils peuvent plus communiquer avec personne et le vol est directement arrangé et ils sont mis c'est catastrophe maintenant, c'est vraiment, c'était déjà catastrophe, c'est déjà incroyable, mais maintenant ça devient vraiment plus de droits, plus rien, quoi.
Alors c'est, si j'ai bien compris, cette action était bien réussie parce qu'on a déjà les bonnes nouvelles que les gens qui sont en centre fermé, ils ont le droit d'avoir le GSM. Avant, c'était juste avoir une 10 minutes. Le seul personne qui peut l'appeler, c'est l'avocat. Et des fois, l'avocat il vient ou vient pas. Alors c'est bonne nouvelle pour les gens qui savent pas les conditions qu'il faut avoir un GSM, pas de caméra et pas de quoi d'autre dans le GSM.
Appareil photo.
Alors, il faut avoir un ancien portable.
C'est comme en Égypte où il vaut mieux avoir un ancien modem.
En fait, comme vous dites que vous avez bloqué tout, alors je parie qu'il y a annulation de l'expulsion ce jour-là.
Oui, donc on a eu un coup de fil par une personne de nationalité chinoise qui a dit « Merci que vous êtes là parce qu'aujourd'hui, je devais être expulsée et ça n'a pas eu lieu ». Donc, mais le problème, c'est qu'on a aussi des appels eu de demain matin. J'ai aussi mon expulsion. Lundi, il y avait des autres, tu vois. Donc, tout le monde disait que c'est presque chaque jour maintenant qu'il y a des expulsions. Donc, il faut presque être là tous les jours, quoi, tu vois. Mais pour ça aussi, ouais, bon.
Les infos que vous avez eues, les gens-là, ils sont combien de temps qu'ils sont là? Est-ce que c'est tous pareil en même période? C'est juste chacun sa problème, sa situation? Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 9 mois, il y a un an, il y a 2 mois, il y a même 24 heures qu'ils sont expulsés. Qu'est-ce que vous avez eu comme information sur ces niveaux-là?
Non, les gens ne sont pas si longtemps là-dedans. Hein, donc. Donc, c'est plutôt les gens qui sont ici en Belgique déjà très longtemps, tu vois. Et aussi des personnes qui sont récemment en Belgique. Donc, et c'est vrai, c'est cas par cas, quoi, tu vois. Mais j'ai l'impression maintenant que ça va beaucoup plus vite, que les gens sont là que 10 jours ou même 4 jours ou un mois et qui sont expulsés, tu vois. Donc, et on a des autres, tu vois, mais ça, c'est plutôt s'ils n'ont pas un laissez-passer du pays. Que là, ceux-là, ils sont peut-être plus longtemps dans le centre fermé. Ouais. Mais ça, c'est cas par cas, ça, je ne peux pas dire. Donc, en vrai, j'ai entendu plein de témoignages hier. Et le truc qui me faisait vraiment. Qui est un petit peu extraordinaire aujourd'hui, c'était que la police fait maintenant vraiment des contrôles plus fréquents. Donc il y avait un témoignage de quelqu'un à Bruxelles qui disait « Dans mon quartier, ils sont passés devant tout le monde, à la maison, ils ont arrêté tout le monde tout un coup. » tu vois. Donc c'est des quartiers vraiment qui visent. Ils vont chercher tout le monde qui a reçu négatif sur la campagne de régularisation. Et alors ils ont dit, on était plusieurs, il y en a certains qui ont quand même pu être libérés, mais moi et quelques autres, on était arrêtés. Il y a même des autres qui disent, je venais juste de mon travail et je suis arrêté par la police. Je viens d'un training de sport et je suis arrêté par la police. Et j'ai plus accès, je peux plus aller à la maison, je peux rien mettre dans, tu vois, je peux rien garder, je peux rien emmener. Je peux même pas dire un mot au revoir à personne. Tu vois, c'est directement arrêté, mis dans le centre fermé.
Expulsion.
Expulsion. Et si t'as la chance, tu as encore ton portable. Mais c'est ça qui est aussi, hein, c'est un des demandes de tenue. C'est de trouver pour eux des portables, leurs anciens portables et leurs données. Parce que même quand on en était là, il y avait une certaine personne qui a fait un SMS. Ils sont en train d'enlever nos portables parce qu'on communique avec vous à l'extérieur. Donc ça aussi, tu vois, ils sont intervenus, les gardiens, pour enlever les portables des gens parce qu'ils communiquaient avec nous. Heureusement que ça n'allait pas si vite, donc après ça, il y a encore eu quand même plein d'appels. Aussi des appels des extérieurs, donc des gens, des copains qui étaient téléphonés, qui disaient... Donc le numéro de téléphone est passé un petit peu partout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est avec tous les appels qu'on a reçus, on va les appeler encore, on va faire le suivi, quoi.
Je pense qu'Anas, il y a quelques questions à poser.
Oui. Moi, ma question, est-ce que c'était une action pré-programmée ou c'est une action spontanée, suite peut-être, parce qu'on a entendu la semaine dernière, il y avait un incident sur une tentative d'expulsion d'un Ivoirien. Est-ce que vraiment c'était ça qui a déclenché cette action ou c'était une action pré-programmée?
Non, ce type d'action, c'est déjà des années. Tu vois, même, c'est déjà depuis, je sais pas exactement, mais je pense déjà 2002, 2003. Même déjà avant, je pense. Donc c'est chaque année, il y a des mêmes types d'actions devant des différentes centres fermés. Donc cette fois-ci, mais c'était... Ouais, non, c'est juste tous les 6 mois, quelque chose. Mais c'est vrai que ça prend du temps pour organiser tout ça. C'est pas tout de suite, c'est pas spontanément.
Mais donc l'objectif principal, c'est d'une part montrer aux gens qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas abandonnés, qu'il y a des soutiens. Et d'autre part, c'est la sensibilisation, parce que c'est pas, à mon avis, ce sont des actions qui restent spectaculaires. Et comme bon, l'expulsion est annulée aujourd'hui, elle est reportée à demain. Aussi, à mon avis, c'est les flics qui sont au courant de l'action, donc à mon avis, ils vont déménager comme ils le font souvent, donc les gens qui étaient prévus pour l'expulsion à notre centre. Donc principalement, c'est la sensibilisation, c'est ça?
Oui. C'est pour ça aussi, c'est l'action par surprise, quoi. Tu vois que la police ne peut pas savoir qu'on vient et qu'ils ne peuvent pas déménager des gens et qu'ils ne peuvent rien faire. Tu vois, donc ils sont pris par la surprise. Par contre, c'est aussi difficile à mobiliser alors tout le monde parce que ce n'est pas une mobilisation large qui est possible. Parce que ça les surprend. Par contre, donc il y avait quand même un travailler bien sur un communiqué de presse. On a aussi eu des contacts avec la presse. Mais hier, je pense, dans la presse en général, il y a passé beaucoup plus d'autres sujets dans le monde qui étaient beaucoup plus importants. Donc j'ai l'impression qu'il y a des presse communiquées dans RTL Info, le Vive Express, des trucs régionaux comme Gazette van Antwerpen. Il y a des Belga qui a pris des photos. Et peut-être encore quelque part d'autres, mais c'est plutôt dans des sites médias alternatifs qu'on peut trouver beaucoup plus d'informations. Donc, ouais.
J'ai une question pour Patrick. En fait, vous étiez déjà participé hier pour cette action. En même temps, vous êtes journaliste. Alors, comme journaliste, comment vous voyez cette action et cette règle dans ce centre fermé et la réaction de police?
Ben d'abord, je suis pas journaliste, mais bon, je peux quand même répondre. Disons qu'en tant que moi-même, je disais tout à l'heure qu'on était très fort pour la négociation, mais bon, évidemment, on voit que ça marche pas à l'intérieur des centres fermés, par exemple. Il y a pas de négociation possible dans les centres fermés. On a affaire à un système carcéral extrêmement dur, pas du tout C'est pas un simili, c'est pas des fausses prisons, hein, c'est des vraies prisons avec des conditions qui sont d'autant plus dures que il y a aucune justification évidemment au sort des gens. Et il y a un truc dont on n'a pas beaucoup parlé là, mais qui est la violence physique qui est exercée sur les gens et dont on a eu des témoignages encore hier, quoi. Donc les gens qui sont dedans sont vraiment soumis à des situations qui sont, enfin, contraires aux droits de l'homme, c'est l'évidence, quoi, mais qui sont contraires à vraiment tous les droits. Ils sont privés de tous leurs droits. Et je pense que ce qui est intéressant, effectivement, c'est de sensibiliser les gens qui peuvent être encore sensibilisés simplement à l'existence du fait que ces centres existent. Parce qu'on a de temps à autre des informations sur ces centres, sur ce qui s'y passe, mais c'est très rare, finalement. Parmi tout ce qui s'y passe, on a de temps à autre un fait qui sort. Mais il faut pas croire que ça se limite à ça. Les violences, elles sont journalières là-bas. Et il n'y a pas toujours des journalistes, justement, pour les relayer. Et donc c'est bien de rappeler que ces centres sont là, de rappeler ce qui s'y passe, etc. Dans la perspective de leur suppression, quoi. Ça c'est évident. Il faut absolument arrêter ce système. Et la deuxième utilité effectivement de ce type d'action, c'est effectivement de faire un signe aux gens qui sont à l'intérieur pour leur dire qu'ils ont ils ont du soutien à l'extérieur et que le système carcéral où ils sont immergés peut être un petit peu bouleversé aussi. C'est-à-dire que le fait qu'ils puissent communiquer à l'extérieur ou recevoir des messages, etc., change un peu la donne. Et on l'a bien vu, puisque effectivement, ça a tellement dérangé l'histoire qu'ils se sont empressés d'enlever la banderole sur laquelle on avait mis le numéro de téléphone, de récupérer les portables pour qu'il n'y ait pas plus de communication avec l'extérieur. Le centre fermé de Max Place, c'est un centre, on ne peut pas voir les gens, on les entend, mais les vitres sont obstruées. Le nouveau centre fermé qui est en train de se construire à Zaventem, il n'y a même pas de fenêtres. Les seules fenêtres qui donnent sur l'extérieur, elles donnent en fait sur l'administration. C'est-à-dire que les gens seraient, si ce centre ouvre, seront à l'intérieur sans aucune possibilité de communication avec l'extérieur, complètement abstrait du monde.
C'est-à-dire c'est un centre fermé au niveau de physique, plus au niveau de communication, plus au niveau d'un enfant. C'est-à-dire ça a presque un présent, quoi. Plus, je pense que pire.
Plus.
Parce qu'il n'y a pas de droit de visite. Il y a certains centres qui n'ont pas de droit de visite. Il n'y a pas de droit d'avoir n'importe quel.
Ils ont droit de visite à Merck's Place, mais Merck's Place est si éloigné. C'est vraiment au bout de. T'as vraiment l'impression. Mais t'es où ici? C'est autorisé par des arbres, des choses, mais il n'y a pas de village, il n'y a rien tout proche. Pour les gens, pour venir visiter Merck's Place, c'est possible à midi, tu vois, à 12h30, il y a des visites. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'on ne va pas rester plus longtemps, parce qu'apparemment, l'autre fois, ils ont même fait le chantage. Si vous ne sortez pas ici avec votre action, on ne va pas laisser les visiteurs voir les gens, quoi, tu vois, à l'intérieur.
Ça, c'est une menace, ça, alors.
Ouais, c'était des menaces. C'est comme ça, des choses qui se passent, quoi, tu vois. Mais pour ça, pour les gens, pour venir visiter, c'est très loin, le Merck's Place. C'est le centre qui est le plus éloigné de tous. Parce que, par exemple, Bruges, c'est encore dans la ville de Bruges, tu vois. Votem, c'est encore à côté de Liège. Mais Merck's Place, c'est tout à fait... comme Steenhuyckerzee, c'est aussi éloigné à fond. Ouais.
Il y a une question que les gens posent toujours. Quel motif les gens-là sont en centre fermé?
Il n'y a pas de motif pour les gens de mettre les gens dans le centre fermé. L'existence d'un centre fermé, c'est...
C'est parce qu'ils n'ont pas de permis de séjour. C'est ça le motif. C'est le seul motif. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des criminels, ils ne sont pas des gens qui a fait quelque chose de grave, quoi.
Non, c'est ça l'image qu'ils veulent faire. Hein. C'est un centre fermé. C'est ça l'image, je pense, que les politiques veulent. Qu'on pense tous que ce sont des gens qui ont fait quelque chose de pas bien. Et c'est ça aussi, tous les témoignages, ils témoignent ça, ils disent « Mais on n'est quand même pas les criminels, pourquoi on est fermé ?» Tu vois, c'est quand même normal, leur réaction. C'est inexplicable.
Alors, maintenant, on va passer au témoignage.
En fait, d'abord, je voulais dire que à propos des centres fermés, donc, comme c'est la première fois que j'arrive, j'ai aussi entendu parler, mais ce qui est vraiment désolant, que nous, par exemple, les étrangers qui sont ici, la plupart ont envie de s'intégrer. La plupart, ils ont fait des papiers pour être régularisés. on les a arrêtés avec ça. Donc, ils se sont retrouvés ici. Beaucoup de gens qui sont ici, à cause de leur régularisation qu'ils ont introduite, et ça retourne encore contre eux-mêmes. Donc, on est un peu désolé parce que nous voyons en Belgique, moi, je veux dire, par exemple, il y a beaucoup de sans-abri, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de toit, de foyer pour s'abriter. Mais au lieu de convertir ces endroits pour accueillir tous ces gens-là, et nous autres, d'essayer de nous aider à avoir un statut pour que nous puissions travailler et être honnêtes au moins, mais ils ne veulent pas. Mm-hmm. En plus de ça, beaucoup de gens qui sont ici, ils ont beaucoup de problèmes dans leur pays qu'on ne sait pas rentrer. À part ça, ils sont en train d'expulser ici beaucoup de gens, vraiment en masse. La nuit, vous dormez et vers 5 heures du matin, on vient vous arracher du lit pour vous conduire à l'aéroport. Ils vont vous déforcer, ils vont vous affamer là-bas pour que vous soyez faibles. Après, il y aura au moins une escorte de type policiers qui vont vous scotcher pour vous mettre dans les avions. Ici, nous vivons toujours dans les qui-vive. Tu sais pas si tu dois fermer l'œil ou pas. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire ici la grève de faim. Il y a des gens qui ont déjà 21 jours. Ils sont vraiment, vraiment très abattis, donc affaiblis physiquement et moralement. Mais les autorités ici, ils les regardent même pas. Même si tu tombes malade, ils vont te dire, ouais, vous faites semblant pour qu'on vous libère, on peut pas vous libérer. Et les agents, tantôt ils sont bien, tantôt, donc vraiment, c'est vraiment très difficile, quoi. Ici à Votem, il y a 4 L. Les L, ils ont divisé 104, donc c'est-à-dire par L, il y a plus ou moins 30 ou 40 détenus. Dans notre L, il y a au moins 5 personnes qui sont en grève de faim. C'est vraiment très difficile, la situation qu'on est en train de vivre, quoi, madame. C'est vraiment de la prison, plus pire que la prison, parce que les gens qui sont peut-être en prison, des fois on les libère, ils savent vraiment le temps de jour qu'ils font, qu'ils vont sortir. Mais ici, le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils disent que c'est une salle d'attente, qu'on est là pour attendre juste pour qu'on puisse nous expulser là où bon le semble. Et il y a une autre chose, madame, je voulais préciser qu'on a vraiment un problème avec les ambassades, surtout les ambassades africaines. Ils sont en train de délivrer les laissez-passer facilement aux autorités belges, sans pourtant se rendre compte des situations de gens qui sont en train d'essayer de les envoyer dans le pays. Mm-hmm. Surtout, j'attire l'attention pour l'ambassade du Congo, qu'on voit avec beaucoup de facilité qu'il est en train d'expédier les laissez-passer pour envoyer les Congolais chez eux, vraiment avec vraiment beaucoup de légèreté. Et je ne sais pas s'ils sont corrompus par les offices des étrangers ou les Belges, les autorités belges, pour les livrer, les laisser passer. Donc, c'est vraiment déplorable. Il y a des gens qui sont encore en procédure ici, mais eux, ils délivrent les laisser passer pour envoyer ces gens-là dans le pays. Aussi longtemps, ils savent qu'ils auront toujours des problèmes en arrivant au pays. Des fois, ils n'ont pas de preuves pour expulser la personne. Ils vont chercher un motif pour prolonger encore de 2 mois la détention de la personne ici. Donc, les gens vivent ici dans les qui-vive, quoi. On ne sait pas fermer l'œil. À chaque fois qu'on vous appelle pour aller soi-disant à l'hôpital, soi-disant chez l'assistance sociale, c'est les gardiens qui sont là pour vous arrêter. Ils vont vous mettre au cachot pendant quelques heures ou pendant une journée. Après, ils vont vous conduire avec la force à l'aéroport pour être expulsé, madame. Voilà. Mais c'est vraiment tout ce qu'on déplore, parce qu'on a suivi ce que M. Watley nous a dit. Pour faire la régularisation, il faut donner vos papiers qui approuvent, qui attestent que vous vivez en Belgique et que vous êtes de telle nationalité. Et c'est le même papier qui sert encore d'une arme pour tuer la même personne. La plupart des gens qui sont ici, ils étaient pour le parti de M. Watley parce qu'il avait pris beaucoup des engagements vis-à-vis des étrangers. Mais à l'occurrence, au moment où le monsieur est arrivé au gouvernement, il a tout balayé. Il a fait la même chose que Madame Tout-Herbon qui était là, qui faisait expulser les gens. Et lui, il a continué et il le fait mieux que lui. Voilà.
Ok. Mais merci beaucoup.
Ok. Merci, madame. On vous appellera s'il y a quelque chose.
À bientôt. Hein? Bien. Au revoir.
Au revoir.
Oui, bonjour. Vous êtes toujours sur Radio Panique, c'est La Voix sans frontières, fréquence 105.4 FR. Avec nous, dans le studio aujourd'hui, Madame Marie-Vonne, visiteuse de centre fermé. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer votre travail concernant les expulsions ?
Eh bien, depuis presque 2 ans maintenant, je vais rencontrer des demandeurs d'asile ou des sans-papiers qui sont enfermés au 127 bis, donc près de l'aéroport. Je fais partie d'un réseau de visiteurs qui est coordonné par la CRER, donc la coordination contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation. Et donc j'ai déjà eu plusieurs expériences très très humaines, très dures parfois, quand on va rencontrer ces gens qui, faut bien se dire, ce ne sont pas des criminels, ce sont des êtres humains. Et donc voilà, on les rencontre, on essaie de passer aux copains de chambrer le numéro de téléphone pour qu'ils puissent nous rappeler. Et notre job principal, en fait, c'est d'abord de les écouter parce que ces gens sont très seuls. Ils ont un mental qui est très très dur, très difficile à supporter. On peut parler après de ce qui se passe au point de vue de la vie dans les centres. Et donc on les rencontre, on voit un petit peu leur cas. On essaie de voir s'ils ont un avocat, s'ils n'en ont pas, on essaie d'en trouver un, etc. Parfois on relance l'avocat parce qu'il y a des avocats qui parfois sont vraiment tout à fait en dehors de la déontologie. On essaie de voir aussi leur état de santé, s'ils ont besoin d'un médecin, parce que le médecin, notamment au centre 127 bis, c'est vraiment l'aspirine et puis basta, point final. Donc voilà en gros un petit peu ce qu'on fait.
D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez faire des observations par rapport à l'évolution de la politique d'expulsion de les centres fermés ?
Ah, le problème des expulsions, ça c'est encore un autre problème. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'expulsions. Je crois que dernièrement, le ministre Wathelet a dit qu'il y avait eu plus d'expulsions en 2010 qu'en 2008. Donc ça augmente sans cesse. Alors, comment ça se passe dans les centres fermés quand quelqu'un est averti qu'il aura une expulsion le lendemain ? D'abord, préalablement, il faut peut-être que j'explique que les assistantes sociales, leur job principal, c'est de préparer le réfugié à accepter son expulsion. Donc, il y a tout un travail de SAP et de manipulation, en fait, pour leur faire accepter l'expulsion. La majorité d'entre eux, évidemment, refusent. Alors, la veille de l'expulsion, vers 2h, 2h30, 3h, on les met en cachot, donc en cellule fermée. Pourquoi ? Pour qu'ils ne puissent pas, disons, communiquer avec les copains, de nouveau passer des coups de téléphone. Ils n'ont d'ailleurs plus droit d'avoir leur GSM dans le cachot. Et donc, le lendemain matin, c'est l'expulsion. Alors là, il y a une gradation dans la contrainte exercée pour les expulsions. La première tentative d'expulsion, elle est très soft. Bon, on l'emmène à l'aéroport. Il a le droit de refuser, ce qui est le droit de chaque réfugié, de refuser la première expulsion. Donc on le ramène au centre. La deuxième tentative d'expulsion, elle est déjà un peu plus hard, je vais dire, parce que les deux policiers sont avec lui. Il est menotté aux mains, aux pieds. Et là, bon, il y a parfois des tabassages, mais c'est encore relativement acceptable, encore que. La troisième tentative d'expulsion, alors là, le réfugié est vraiment saucissonné avec des bandes velcro autour du corps, donc il est vraiment comme un saucisson. Et là, bon, s'il crie, s'il refuse, avant d'être emmené dans l'avion, parce qu'il est d'abord incarcéré dans la cellule de l'aéroport, là, s'il refuse, ben, c'est le tabassage en règle. Et tout dernièrement, on a connu le cas d'une personne qui a été sévèrement tabassée. Et alors là, bon, évidemment, c'est la loi du plus fort. C'est les flics qui disent que, bon, ils ont été violentés. Voilà. Alors, il y a aussi, oui, j'oublie de dire, alors quand ça ne fonctionne pas, il y a encore une dernière et ultime tentative d'expulsion qui est l'expulsion par vol sécurisé. Ces vols-là se font au départ de l'aéroport militaire de Millsbrook et ce sont des vols avec uniquement des réfugiés. Et la consigne maintenant au niveau européen, c'est d'essayer de regrouper des vols d'expulsion par des vols sécurisés avec, par exemple, une vingtaine de réfugiés de différents pays européens pour être expulsés sur tel pays.
Qu'est-ce que ça veut dire un vol sécurisé?
Eh bien, un vol sécurisé, c'est un vol sans passagers commerciaux. Voilà. Donc, comme je le disais, bon, ou bien c'est la personne est expulsée via un vol régulier. En général, c'est SN Brussels Airlines qui obéit aux injonctions du gouvernement en acceptant d'expulser des réfugiés. Mais donc, pour répondre à ta question, les vols sécurisés, il n'y a pas de passagers. Ah oui. Ça part de l'aéroport militaire de Millsbrook et uniquement avec des réfugiés qui, parfois, proviennent de différents pays d'Europe.
Alors, donc, c'est juste une question avant qu'on traduise en arabe. C'est combien le droit de la personne pour refuser l'expulsion?
Elle peut refuser jusqu'au moment où elle est dans l'avion. Parfois, ça fonctionne parce que bon, quand la personne crie, pleure, etc. dans l'avion, les passagers sont aussi alertés. Ils ne veulent pas voyager dans de telles contraintes. Et donc, parfois, on débarque la personne susceptible d'être déportée.
Maintenant, on va passer juste un petit minute de traduction en arabe. Les chouans mstemi'in, le kiram, belloua l'arabia, tarjama, harfi ibn sbel, seyda, moutoujda ma'ana, madame Marie-Yuven, hiya, min ahda, ba'd l'nas l'adine yuzurun يزورنا المراكز المغلقة لأصحاب الأشخاص ليس لديهم أوراق الإقامة. هي من إحدى الفاعلات الجمعويات التي يزورون الأشخاص ويرون ما هي المشاكل التي يعانون منها وبعض المشاكل الصحية ومشاكل إدارية ومشاكل مع الشرطة أو مع الحرس في المركز. تقول أن هناك بعض التجاوزات من طرف الحراس ومن طرف المسيرين لهذا المركز. تقول كذلك أن هناك بعض ترحيلات تعسفية من طرف المسؤولين لهذا الأشخاص سريا، المعاملة السيئة وعدم الاهتمام الكامل ونقص في الحقوق الإنسان التي من الواجب أن يحترمها من طرف المسؤولين. كذلك تقول أن هناك بعض الترحيلات تقوم عبر طائرات تجارية التي تكون كل يوم تقريبا من طرف المركز لترحيل هذه الأشخاص. تقول أن من الحق المرحل أن يرفض مرتين، في حالة رفضه المرتين هناك مساعدات اجتماعية التي يتحدثون معه من أجل إقناع الرحيل، وهناك من يرفض، وفي حالة الرفض يتم إغلاقهم في زنزانة مغلقة ممنوعين من الحديث أو الاتصال أو أي اتصال مع الخارج. وبعدها ينظمون له ترحيلا، يعني ترحيلا مؤمن، وهو ما يعنيه ترحيل مؤمن هو طائرات العسكرية المنظمة عبر الدول المتحدة الأوروبية التي تقوم بزيارة الدول الأوروبية لترحيل اللاجئين وترحيل المرحلين. وتقول أن هناك يتم ترحيلهم بطريقة تعسفية وبسرعة.
Maintenant, on va écouter un autre témoignage et après, on continue la discussion avec Marie-Yvonne, visiteuse de centre fermé.
C'était en 2005. Je revenais du travail à ma maison et une amie m'a appelée en me disant que quelqu'un avait besoin de moi pour un travail. Alors je suis sortie téléphoner à une amie pour dire que j'avais du travail. Je suis rentrée dans la cabine d'un phone shop, ici à Saint-Gilles. Je suis rentrée dans la cabine et j'ai appelé mon amie. J'ai parlé pendant 2 ou 3 minutes. C'est là que sont arrivés les policiers. Ils ont commencé à contrôler le magasin et nous ont contrôlés nous aussi. Ils m'ont demandé de raccrocher pour leur montrer mes papiers. Je n'avais pas les papiers, seulement l'attestation de la commune. Ils m'ont dit de payer le phone shop pour les minutes que j'avais appelées. Ils m'ont demandé de raccrocher pour leur montrer mes papiers. Je n'avais pas les papiers, seulement l'attestation de la commune. Ils ont commencé à enregistrer tous les papiers de tout le monde et à vérifier si on était bien inscrit à la commune. On était beaucoup, de 8 nationalités différentes. Mais la seule personne qui n'avait pas les papiers en règle, c'était moi. Directement, ils ont appelé l'Office des étrangers qui m'avait refusé la demande de régularisation. Mais ce papier, ni mon avocat, ni moi, on ne l'avait reçu. Il venait d'être envoyé de l'office, mais il n'était pas encore arrivé. Alors, ils m'ont dit que je n'étais pas inscrite et qu'ils devaient m'expulser. Ils m'ont fait attendre un bon moment là pour vérifier tout, toutes mes données. Après, ils m'ont mis les menottes et ils m'ont amené à une camionnette de police. Et là, ils agissaient comme si j'avais fait quelque chose de mal. Ils ont mis les sirènes. On est arrivé à Anderlecht et ils ont pris tout ce que j'avais. Ils m'ont enfermé dans un lieu où il n'y avait même pas de toilette, seulement un siège en béton. Comme toilette, il y avait seulement un trou dans le sol. Je me suis couverte, il y avait beaucoup de gens. Je suis restée de 10h du soir jusqu'à 10h du matin. Après, ils m'ont amenée à Zaventem et ils avaient de nouveau mis la sirène, comme si j'étais une sorte de délinquante. Jamais j'aurais pensé que ça pouvait arriver. Je n'ai jamais eu de problème avec la police. Et je me sentais très mal. Je ne comprenais pas pourquoi ils m'avaient mis les menottes. J'avais rien fait. Je ne suis pas une voleuse. J'avais rien fait de mal. Seulement pour être illégale ici. Quand j'étais en prison, j'ai pleuré. Parce que je pensais qu'en Équateur, ça n'aurait pas été possible, ça. Alors qu'ici, c'est en train de m'arriver. J'avais aussi peur, parce que j'avais entendu des choses horribles, qu'ils déshabillaient tout le monde, comme si on avait caché des choses. Et j'avais très peur de ça, qu'ils m'enlèvent tous mes vêtements et commencent à tout examiner avec des docteurs. Mais ils ne l'ont pas fait à ce moment. Je suis arrivée au centre fermé l'après-midi. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'hommes et de femmes, des enfants. Et j'avais très peur. Je n'étais jamais entrée dans un lieu comme celui-là, enfermé. Je ne savais pas ce qui allait se passer ni combien de temps j'allais rester là. Ils m'ont amenée à l'endroit où j'allais dormir. Ils m'ont indiqué le lit. C'était une chambre pour femmes. Et il y avait là des enfants. Je suis restée là du 11 mai au 23 mai. Je suis sortie parce que mes frères ont cherché un avocat qui a traité ma demande et grâce à ça, ils ont pu empêcher mon expulsion. J'avais peur qu'ils m'expulsent. J'avais très peur parce qu'en Équateur, j'ai un problème. Et j'avais peur, et donc je ne voulais pas partir. J'ai mes 3 frères ici, avec mes neveux. Oui, j'avais peur qu'ils m'expulsent. Et d'être enfermée, je ne me sentais vraiment pas bien. En plus, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas beaucoup téléphoner parce qu'ils ne laissaient pas appeler tout le temps. On ne pouvait rien faire. Et on était mal, tout le monde qui était là. Il y avait beaucoup d'enfants qui pleuraient la nuit. C'était impossible de bien dormir. On nous donnait à chacun un assistant social, mais qui nous répétait qu'il n'y avait pas moyen de rester. Que le plus simple, c'était de signer et de partir. L'assistante qu'ils m'ont mise pour m'aider, c'est pas normal qu'elle me dise ça, parce que je voulais pas partir. Je lui demandais de l'aide et elle me répondait ça. Pour moi, c'était choquant. Je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai parlé avec beaucoup de monde là-bas et ils m'ont dit de ne pas faire attention parce qu'il y a des assistantes comme ça et d'attendre un peu. Et ce n'est pas normal qu'une assistante dise des choses comme ça. Quand je suis sortie, mon frère est venu me chercher. Il a pris ma mallette et je voulais partir très vite pour ne pas qu'il me reprenne. J'avais peur qu'il m'enferme de nouveau. Et mon frère a dit « on se dépêche ». À ce moment, mon frère n'avait pas de papier non plus. Après, je me suis sentie libre, bien, même si j'avais encore peur parce que j'étais sans papier et que j'avais un ordre de quitter le territoire dans les 10 jours. J'ai continué d'avoir peur. Chaque fois que je voyais les policiers, j'avais le souvenir des menottes. Il m'a fallu longtemps pour calmer ce souvenir. Avant ça, j'avais jamais eu peur de la police.
On revient avec Marie-Yvonne, visiteuse de centre fermé. Marie, après ce témoignage donc touchant, vous êtes régulièrement en contact avec ces gens enfermés, est-ce que vous pouvez nous décrire une image de la vie là-bas à l'intérieur et surtout des régimes, ça veut dire pour un sans-papier qui arrive dans le centre, comment ça se passe pour lui du début jusqu'à la fin de l'arrestation, de l'enfermement à l'expulsion, comment on vit ça, donc voilà.
Alors, de ce que je vois et des témoignages que je reçois, la vie dans un centre fermé est vraiment une vie très très dure. C'est un régime carcéral. Je dirais même plus, c'est plus que dans une prison belge. Notamment, je suis assez révoltée du fait que depuis quelque temps, les réfugiés sont dans un régime de ségrégation, c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment avec les hommes et un bâtiment avec les femmes. Et il n'y a plus aucune connexion entre les deux. Même les heures de repas sont différentes. Les heures de douche, les heures de cours, tout ça est différent pour qu'il n'y ait pas de contact entre les hommes et les femmes, ce qui est vraiment aberrant et à la limite contraire aux droits humains. Alors, comment se sent un réfugié qui arrive dans un centre fermé? Mais je crois que pour lui, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête, parce que il faut bien se dire que les gens qui sont là, ce sont pas des criminels. Or, le régime des centres fermés les considère comme des criminels. Donc, toute leur attitude est tout à fait déstabilisée parce que ils sont tout à fait considérés comme des criminels.
Dans la loi, peut-être on dit que c'est pas une prison, mais en réalité, c'est une prison. C'est un jeu de mots, c'est ça?
C'est absolument un jeu de mots. Et d'ailleurs, on parle beaucoup, dernièrement, d'humaniser les centres fermés. C'est une aberration. Pourquoi humaniser quelque chose qui, à la base, n'est même pas humain? Donc, ce que nous réclamons avec beaucoup d'autres ONG et associations, c'est qu'il n'existe plus des centres fermés. Que ce soit les centres fermés qui soient illégaux et pas les personnes qui sont dedans.
J'ai une question à poser. Quand un réfugié qu'on arrête, qui arrive au centre fermé, c'est quoi les choses qui doit faire? Est-ce qu'on le dit tout? On lui dit que tu vas prendre un avocat, tu as le droit à une assistance sociale, ou bien est-ce que ça
est-ce qu'ils expliquent vraiment leurs droits en centre fermé à l'avance ou pas?
Eh bien, pour le centre du 127 bis, il n'y a pas d'aide juridique à disposition des réfugiés. Donc, s'ils n'ont pas d'avocat, ils sont tout à fait paumés dans la nature. Et c'est un des rôles, comme je l'expliquais tout à l'heure, des visiteurs, c'est de leur expliquer leurs droits, d'expliquer ce qu'ils peuvent faire, s'ils n'ont pas d'avocat, d'en prendre un ou de leur en conseiller un, parce qu'il n'y a pas d'aide juridique de la part des services sociaux du 127 bis. Et bon, le job des assistants sociaux, c'est précisément de les préparer à une expulsion.
En fait, j'ai encore une autre question pour vous. Par exemple, vous êtes régulièrement visite de un centre fermé. Est-ce que vous avez droit de passer de n'importe quel endroit dans, à l'intérieur du centre fermé ou vous êtes bloqué dans un place ou dans un resto exactement comme ça vous contactez ou vous voyez vraiment la réalité comment ils vivent, où les gens dorment et comment ils sont habillés tout ça?
Bon, alors, en ce qui me concerne et en ce qui concerne la coordination contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation, la procédure pour aller visiter quelqu'un, c'est d'abord d'avoir son nom exact. Ensuite, on doit faire une demande à la direction du 127 bis en précisant qu'on veut rencontrer monsieur ou madame un tel, tel jour, telle heure. Alors, quand on arrive là, on doit passer dans une salle où on dépose ses effets personnels. On ne peut pas avoir son sac, pas de GSM, rien du tout. Et puis, on est emmené dans un endroit qui est une espèce de petit salon où il y a des tables, une télévision. Et puis, on amène les réfugiés qu'on est censé visiter. On amène, c'est-à-dire que les gardiens amènent les réfugiés. J'ai oublié de dire aussi que quand on arrive, qu'on a déposé ses affaires dans une consigne, on est également fouillé avec un détecteur de métaux. Et donc, on est dans la petite salle. Les réfugiés sont amenés par les gardiens. Ils ont auparavant aussi été fouillés. Alors bon, on s'assied, on parle avec la personne, mais les gardiens restent en permanence au fond de la salle. Il faut semblant de lire une revue, mais enfin, ils sont là, quoi. Voilà.
Parce que je rappelle, si vous m'excusez, je rappelle une fois j'ai visité quelqu'un au centre fermé. Ils ont fait la même chose que vous venez d'expliquer et même laissé même pas un euro sur moi pour rentrer. C'est comme ça. Et la vite de les visiteurs donner l'argent à l'intérieur, à les gens, comme ça ils achètent des cartes téléphoniques, quelque chose comme ça. Comme ça. Ils essaient toujours de couper la communication avec un extérieur. Exagère aussi sur le niveau de la période de visite. À mon avis, c'était 20 minutes comme ça. En plus, le temps de 20 minutes, ça calcule le moment que vous êtes en contrôle, là, à attendre les portes rentrer parce que c'est trop sécurisé, si je rappelle bien. Est-ce que c'est toujours la même règle ou ça change?
Non, je pense que dès qu'on arrive et que, bon, c'est vrai que ça prend peut-être 5 minutes à partir de l'heure où la visite commence, le temps d'arriver dans la salle, que le réfugié arrive, mais grosso modo, au bout d'une heure, on fait signe. Donc, on a le temps de se voir pendant une heure. Mais ce que tu disais, au point de vue d'empêcher la communication, c'est tout à fait vrai, parce que c'est seulement depuis le mois de juillet ou du mois d'août de l'année dernière que les réfugiés pouvaient avoir un GSM personnel. Et encore sans caméra pour soi-disant des raisons de sécurité. Mais donc avant, ils n'avaient même pas le droit d'avoir un GSM, donc ils étaient tout à fait coupés de l'extérieur. Et donc c'est exact que bon, il y a un léger mieux de ce côté-là, mais bon, ce n'est pas encore l'idéal. Et alors, c'est vrai que le fait d'avoir un GSM permet des contacts avec l'extérieur, avec l'avocat, avec les visiteurs. Et donc, la CRER organise demain une distribution de GSM que nous avons récolté pour les remettre aux réfugiés du 127 bis.
Non, j'avais juste encore un... Parce que tu dis, si tu dois dire le nom de la personne que tu veux visiter. Donc, comment savoir qui est arrêté?
Très bonne question. C'est un gros problème. Alors, nous avons une technique, une stratégie. C'est que régulièrement, nous allons avec une vingtaine de personnes devant les grilles du 127 bis. On fait du tapage, etc. Puis on voit quand même des gens qui apparaissent derrière les grilles. Et bon, on a un panneau avec le numéro de téléphone où ils peuvent nous appeler. Et donc, c'est suite à des coups de fil qu'on a des contacts. Alors, deuxième méthode aussi, ce sont les personnes qui vont visiter un réfugié. On leur passe le numéro de téléphone en disant, bon, on passe aux copains, etc. S'ils ont besoin d'aide, de nous appeler. Voilà. Mais savoir qui, aujourd'hui, à Bruxelles, est arrêté dans la rue, impossible à savoir.
Mais comme ça se passe ici à Steenhuyckerzijl, il y a aussi des autres centres fermés. Est-ce que vous êtes en lien avec des autres réseaux? À Votem, à Merckxplas, à Bruges.
On a des contacts avec le centre fermé de Votem, oui, bien sûr, parce que parfois il y a certains réfugiés qui sont libérés du 127 bis et qui sont allez, déviée, je vais dire, sur vos thèmes. Avec Merxplas, non, pas tellement, non.
Oui, parce que ça, c'est une des choses. C'est pour ça que hier, maintenant, parce que Merxplas, c'est plus éloigné. Je sais que la Ligue des droits de l'homme, il y a une personne qui y va, mais c'est tous les 15 jours. Donc, ça peut moins fréquenter. Ouais.
C'est vrai que ce serait l'idéal que tous les centres, enfin toutes les associations qui s'occupent des centres fermés soient en connexion. C'est vrai, ça pourrait beaucoup aider les choses. Et par exemple, notamment pour les expulsions, parce que quand on apprend qu'une expulsion va avoir lieu le lendemain, c'est vrai qu'on le sait toujours la veille. On peut alerter tout un réseau par internet, par GSM, et mobiliser des gens à l'aéroport pour parler aux passagers de l'expulsion qu'ils vont vivre sur leur vol, quoi.
Mais très récemment, je sais pas si vous êtes, c'était quelqu'un de, je pense, de, ah non, je vais pas dire, très récemment, il y a eu aussi quelqu'un qui a refusé d'être expulsé, mais qu'il a mis dans prison à cause qu'il a rébellé.
Oui, c'est exact, oui. Oui, c'est quelqu'un que nous visitions au 127 bis. Oui, je ne vais pas dire son nom ici, mais bon, il était théoriquement expulsé sur un pays où il n'avait pas eu le laissez-passer de l'ambassade et un pays qui, pour l'instant, est vraiment déchiré entre deux présidents. Donc, ce n'était pas le moment de le renvoyer là-bas. Alors, quant à dire que ce réfugié s'est rebellé contre les policiers, là, je pense que la Belgique est dans le pays du surréalisme, mais quand même, un type qui est menotté aux pieds, aux mains et saucissonné devant deux flics et puis une dizaine de flics, dire que c'est lui qui a tabassé les forces de l'ordre, franchement, c'est à tomber par terre.
Ça me rappelle Guantanamo, ça, parce que menotter les mains, les pieds, c'est Guantanamo quand même. C'est...
Oui, tu as raison. D'ailleurs, il y en a qui disent que les centres fermés en Belgique, c'est le Guantanamo belge.
Voilà. En fait, est-ce que ça arrive un jour que vous êtes en visite et vous entendez, il y a quelqu'un qui était là en ce moment que vous êtes en visite et en expulsion? Oh, vous n'avez jamais au courant d'une expulsion au moment de visite
Non, tu veux dire quand je parle avec quelqu'un, voilà, qui me dit... non, alors on peut me dire, bon, hier, un tel a été expulsé ou bien un tel est mis au cachot parce qu'il va être expulsé demain, mais voilà. Mmh. Mais c'est vrai que quand on arrive au centre du 127 bis, on voit les camionnettes bleues qui entrent, qui sortent et on se dit, bon, voilà. Ou bien c'est quelqu'un qui a été arrêté dans la rue ou bien c'est quelqu'un qui est emmené à l'aéroport.
J'avais encore une question sur... parce que je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais la Belgique a été condamnée déjà plusieurs fois pour la façon de traitement dans des centres fermés et la façon d'expulser des gens. Et même depuis Samir Adamou, qui était tu vois, il y a apparemment rien changé. Donc, ou c'est plus caché, ou tu vois, comment ça se fait que...
C'est vrai que la Belgique a été condamnée de nombreuses fois pour sa politique de migration, et notamment pour ce qui se passe dans les centres fermés. C'est contraire à la convention de Genève qui dit que bon tout réfugié a le droit tout État a le devoir d'accorder l'asile à une personne qui en fait la demande. Et donc c'est vrai que le gouvernement cherche par tous les moyens à esquiver cette demande et ce devoir, et c'est la raison pour laquelle la Belgique a été condamnée tout récemment d'ailleurs à propos d'un Afghan qui avait été expulsé sur la Grèce. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a les cas Dublin, c'est-à-dire en deux mots, un réfugié qui arrive dans l'espace Schengen et puis qui arrive en Belgique, la Belgique se lave les mains en disant non, tu dois retourner dans le premier pays, Schengen, voilà. Et donc la Belgique a été condamnée pour le cas de cet Afghan qui était renvoyé sur la Grèce. Or la Grèce n'a aucune politique d'accueil vis-à-vis des réfugiés, et donc la Belgique n'a pas pris en compte le fait que la Grèce était dans l'impossibilité ou la non-volonté de donner droit à la demande d'asile.
Mais je pense qu'ils sont, est-ce qu'ils sont pas encore si condamnés dans la façon qu'on y traite les gens, parce que très dans les témoignages, tu entends aussi des gens qui disent maintenant le coussin c'est interdit à utiliser à cause que Samir Adamou a été étouffé par un coussin, mais maintenant il y a apparemment des matelas qu'ils utilisent comme tactique, qu'ils mettent la personne par terre, qu'ils mettent le matelas là-dessus, qu'ils tapent sur le matelas, comme ça il y a pas trace de violence. Donc, ce sont quand même des choses.
Oui, c'est exact. Mais la personne dont on parlait tout à l'heure, qui finalement a été inculpée de coups et agressions, il n'y a aucune trace visible de séquelles des coups reçus. Oui, c'est vrai.
Parce que même dans le film illégal qu'ils ont été passés au cinéma, on voit ça, on voit des choses. Et. C'est quand même incroyable.
C'est vrai que la technique du coussin, je pense, n'est plus utilisée. Mais bon, il y a d'autres techniques qui permettent aux policiers de tabasser les gens sans laisser de traces. Oui.
Après tous les rapports critiques sur ce qui était passé, c'est grave. Quoi. Ouais.
Je crois, Anna, c'est la question.
Oui, vous avez dit donc. Dès qu'on arrive au centre, il y a tout un travail de préparation donc à cette soi-disant fatalité, c'est-à-dire l'expulsion, elle est là, donc on essaie au maximum de préparer le détenu à accepter ça. Vous avez parlé aussi du cachot, donc la veille de l'expulsion, on met la personne au cachot, une cellule voilà, individuelle qu'on utilise comme dans les prisons pour punir voilà, les prisonniers qui se révoltent. Il y a des rumeurs aussi qui parlent du. De fait, des fois, on donne des calmants ou des médicaments pour faciliter l'expulsion. Est-ce qu'on peut confirmer ça?
Oui, c'est exact. Oui, beaucoup de réfugiés disent que on leur donne tous les jours des calmants, des anxiolytiques, bon, pour un peu annihiler leur volonté et leur envie de refuser. Oui, c'est exact, oui. Donc au niveau médical, il y a le fait que les demandes concrètes, par exemple des maux de dents, des maux de rein, etc., sont soignées uniquement par des aspirines et des médicaments tout à fait de base. Mais il y a aussi le fait que, je pense, on les dope un petit peu pour atténuer leur conscience et leur envie de réagir, oui.
Alors maintenant, je pense qu'on va passer à un deuxième témoignage.
La première question, c'est savoir comment tu es arrivé en centre fermé.
طلبت لقو اول ما عاد لي في الانترفيو طلبوا مني ان انا اروح لسنتر مغلق.
La première fois, j'ai demandé le refuge et après directement après la demande d'asile, on m'a envoyé au centre fermé.
Quand tu es allé à l'office des étrangers, ils t'ont directement pris en centre fermé.
Effectivement, juste au premier rendez-vous, au premier interview auprès de l'office des étrangers, j'étais reconduit au centre fermé.
Et combien de temps il a passé au centre fermé et s'il peut nous expliquer dans quel centre fermé ?
المدة كاملة كانت شهرين وأسبوعين قضيت بالضبط 57 يوم في سنتر زبنتم نقلوني لسنتر آخر اسمه ليج سنتر ليج كانت عبارة عن ضغط نفسي عبارة عن ضغط نفسي حرق أعصاب.
J'étais retenu pendant une durée de 2 mois et 2 semaines dans 55 jours dans le centre fermé de Zaventem. Et après, elle a été reconduite au centre fermé de Liège. Pour lui, c'était des conditions avec beaucoup de pression morale.
Est-ce qu'il peut nous parler plus des conditions et de la façon dont ça se passe à Liège? Parce qu'on a très peu de témoignages sur Liège.
ما فيش اختلاط بينه وبين الأمن مباشرة لازم نكلمهم من وراء الباب باب حديد طبعا باب سجن والخدمات بتبقى متأخرة جدا هناك بيبقى واحد عايز يروح للدكتور لازم يكتب اسمه الصبح الدكتور اللي هو مش موجود طبعا يعيش بألم وما فيش مشكلة ولو حد أي حد عيان بياخد نفس الدواء دواء واحد أنواع أدوية أخرى هو دواء واحد لأي حد تعبان درسه سنانه بتوجعه ورجله بتوجعه
Pour le centre fermé de Liège, pour moi, c'est une prison, une vraie prison avec des portes de prison, des portes qui sont très lourdes. Déjà avec le personnel qui travaille au centre fermé, on n'a aucun contact direct, tout se passe derrière les portes. Je cite un exemple pour les soins médicaux, pour voir le médecin, il faut prendre un rendez-vous le matin et après on va attendre, ou bien l'heure du consultation a passé, tu peux attendre avec tes souffrances et tes douleurs, il n'y a pas de souci à ça, tu vas attendre le lendemain. Et d'autant plus, on a constaté que les médicaments, on prenait un seul médicament standard qui était du genre de, pour nous c'était des somnifères quoi. Et c'était le même médicament, que ce soit pour des maux de tête ou bien des douleurs aux dents, à l'estomac, ou, etc. Donc voilà, les services en général étaient très 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 médiocres.
Quelle est la population qu'il y a au centre fermé de Liège? Est-ce qu'il y a des femmes et des enfants ou c'est seulement des hommes? Et est-ce qu'il y a beaucoup d'expulsions qui partent de ce centre fermé?
Liège, كانت فترته قصيرة في ملحقتش ألم معلومات كبيرة كتيرة ما شفتش عائلات في ملحقتش ما سمعتش إن في عائلات هناك بس كانت طبيعتهم تقريبا كلهم ناس طيبين يعني ناس ما فيهاش مشاكل ما بيعملوش مشاكل نساء ما شفتش أنا من الحال كنت لما قالوا لي إن سنتر ليج كنت أعصابي كانت بايظة أكتر فما كنتش مهتم بقى أعرف إن كانت من سجن لسجن كانت نفسية كانت وحشة
Donc moi j'étais déjà dans le centre fermé de Zaventem, donc j'ai été transféré là-bas, donc déjà ma morale était cassée et je ne m'intéressais pas à savoir ce qu'il était par rapport aux d'autres détenus, mais selon lui il n'a pas vu des familles, il n'a pas vu aussi des femmes, mais les détenus qu'il a vus là-bas ce sont des gens tranquilles qui sont loin de tout problème, donc en dehors du centre.
Et est-ce qu'il peut parler un peu plus de comment il se sentait pendant tout ce temps où il était en centre fermé?
يعني كان شعر بيض من المعاملات في الخارجية بس عندما دخلت السنتر أعصاب زاد أكتر ومرض النفسي زاد أكتر يعني.
J'ai jamais pensé de me retrouver un jour dans un centre fermé, donc dans un centre pareil. Donc j'avais le moral très fatigué, j'étais très déprimé. C'était la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Donc j'avais une sensation d'être sous terre. Et c'est vrai que j'avais quelques cheveux blancs avant ma détention. Mais là, j'ai eu plus de cheveux blancs. Et durant toute ma vie, j'ai jamais été en prison. Et je me vois, une fois arrivé en Belgique, que j'étais voilà, effectivement en prison. Et tout cela, ça implique une grande souffrance morale.
Je voulais savoir peut-être depuis combien de jours il est sorti et comment il se sent depuis qu'il est sorti.
السجن بيموت يعني في ناس بتموت من السجن في ناس تخش السجن تموت يعني الناس بيجي لها مرض اللي مش مريض بيجي له مرض من السجن بالذات الأسباب غير معروفة إيه الأسباب السبب اللي أنا دخلت في السجن سبب مش جريمة مش جريمة ما عملش جريمة لا سارق ولا قاتل ولا ضرب حد ولا ما عملش حاجة
خرجت عندك مدة إيه؟
حاليا 4 أيام
Donc ça fait 4 jours que je suis sorti du centre fermé. J'ai un double sentiment, j'ai une petite joie parce que je ne suis plus en détention, je ne suis plus en prison. Et en même temps, j'ai un sentiment très négatif dû à la souffrance que j'ai dû subir. Et même actuellement, je n'arrive pas à penser, mes pensées sont paralysées. Donc je subis toujours les séquelles de l'emprisonnement. Parce que croyez-moi, la prison tue, c'est pas un truc facile. On peut rentrer sain et en sortir malade. En détention, on tombe malade et on ne sait pas de quoi. C'est juste le fait d'être détenu. Ce qui me blesse le plus, c'est que moi, je ne suis pas criminel et je n'ai pas fait un crime pour mériter cette détention. Donc pour moi, c'est toujours incompréhensible pourquoi j'étais détenu.
Et par rapport au principe même du centre fermé, d'enfermer des gens parce qu'ils sont à un endroit où on considère qu'ils ne devraient pas être.
هم سايبين الناس اللي عاملة جرائم في الشوارع هم عارفين الناس دي بتعمل كده وسايبينهم بس بيجوا على الناس اللي عايزة تعيش بطريقة سلمية وطريقة مشروعة ما يوافقوش عليهم ويوافقوا على الناس اللي بتسرق وبيعوا مخدرات.
Donc pour moi, les centres fermés ne doivent pas exister parce que tous les gens qui s'y trouvent ne sont pas des trafiquants, ne sont pas des voleurs, ne sont pas des délinquants. Selon lui, on laisse ce genre de malfaiteurs libres dans les rues et tous les gens que tu rencontreras en centre fermé sont des gens pacifiques, des gens qui voulaient vivre en situation régulière. Et voilà, donc leur place n'est pas là-bas parce qu'ils n'ont commis aucun crime. Donc c'est injustifié leur détention dans ce genre de centre.
أي شخص بيخش كل سنتر بيتعلم الكره بيكون جاي حابب البلد حابب يعيش فيها بيتعلم من اللي بيشافه من الظلم اللي شافه كل واحد قالها أنا سمعتها من جميع الجنسيات اللي شفتها أنا إذا شفت واحد بلجيكي في بلدي هموته هقطع رقبته دي الكلمة دي سمعتها بجميع اللغات هو بيربي كره بسبب إن أنا دخلت تاني سجن من غير سبب وبيتعاملني معاملة وحشة من غير سبب ده سبب إن أنا جاي بمد إيدي عشان أعيش معاك بسلام وفي خلال في نفس الوقت أنت بتسايب الحرامية وسايب تجار المخدرات فأنت بيكره فأي واحد طالع بيبقى فيه كره عايز يعمل حاجة وحشة يعني.
Ce que j'ai aussi constaté, c'est que ce genre de centre nous imprègne avec un sentiment de haine contre tout. Parce qu'on se demande pourquoi. Et donc, il y a un sentiment de haine qui grandit en nous, que nous n'avions pas avant, parce que c'est en tendant la main qu'on est venu. Donc, espérons avoir un soutien, une aide, une vie honorable. Et par rapport à cette main tendue, c'est une détention avec des conditions de vie qui ne sont pas correctes, avec des comportements presque inhumains. Et moi, j'ai dû entendre à plusieurs reprises des gens qui ont dit « Moi, si je retourne dans mon pays et je vois un Belge, je me vengerai. » Donc, c'est ça, au fait, ce que font les centres fermés. Cela m'inquiète parce que c'est pas ce qu'on espère en venant ici.
Après ces témoignages, on va terminer sur ce que le soutien, ce que les personnes en dehors des centres fermés peuvent faire pour soutenir et pour lutter contre ce régime d'expulsion. On a déjà entendu des témoignages de l'action d'hier, donc des actions devant les centres fermés. On a eu Marie-Yvonne ici qui nous a parlé de son travail comme visiteuse de prison. Là-dessus, tu voulais aussi lancer un appel.
Oui, bien sûr, parce que donc à la coordination contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation, on essaie d'étoffer le réseau des visiteurs. Et donc, je lance un appel à tout le monde. Si la mobilisation contre les expulsions et l'enfermement dans les centres fermés vous dit quelque chose, vous contactez la CRER au numéro de téléphone 0474-08-85-35. Je signale d'ailleurs que nous avons besoin de visiteurs qui parlent l'arabe parce que beaucoup de réfugiés pratiquent cette langue. Voilà. Je donne aussi l'adresse mail de la CRER. Mmh. Alors, c'est C2ORD pour coordination et puis 100 papier en un mot au pluriel @hotmail.com. Je répète, COORD 100, le chiffre 100, papier, tout attaché, papier au pluriel, @hotmail.com. Voilà. Et alors, dernière petite annonce, demain à 14h devant le 127 bis à Stenokerzeel, il y aura une manifestation, toujours pour dire que les centres fermés ne doivent pas exister en Belgique, mais plus pratiquement pour faire la distribution des GSM sans caméra que nous avons récolté. Et si vous venez demain et que vous avez un GSM, apportez-le, on trouvera toujours bien une petite place pour le mettre dans le paquet et le remettre aux détenus du 127 bis.
Et à propos de ça aussi, il y a encore un autre réseau qui va être en lien avec le réseau des visites. C'est un réseau pour créer un comité d'action contre les expulsions à l'aéroport. Donc pour être là à l'aéroport au moment de l'expulsion, pour essayer de déclamer surtout qu'on n'est pas d'accord avec ce régime d'expulsion, mais aussi pour essayer d'éviter cette expulsion. Si vous êtes intéressé à participer à ça, il faut écrire un mail à nodeportationbruxelles@trizia.net, mais je vais dire très brièvement, c'est nodeportation, donc N-O-D-portation, B-X-L, @RISEUP.net.
Moi, je veux juste rajouter quelque chose au moment des arrestations. Quand un policier nous arrête, il faut bénéficier de tous les recours, car on a le droit aux recours et les appels. Il faut aussi dans les commissariats, il faut dire que j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un interprète, d'un médecin, et essayer d'appeler quelqu'un pour l'avertir de votre arrestation. À l'extérieur aussi, vous pouvez contacter des gens de l'extérieur, un maximum de gens, contacter les associations, rester en contact avec son avocat, les associations qui peuvent faire des pressions sur le consulat pour ne pas délivrer le fameux laissez-passer. Et l'avocat ou l'avocat de prud'homme, si on n'a pas les moyens, il peut faire des recours, il peut faire des appels pour empêcher les expulsions.
Moi pour finir, donc un petit retour là sur les chiffres de tout à l'heure. Bon, c'est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais des fois il faut les faire parler. On constate qu'il y a une recherche de rentabilité dans la politique d'expulsion. Ça veut dire qu'au moment de l'arrestation, déjà, il faut vérifier si c'est vraiment la personne expulsable ou pas. Parce que même il y a, par exemple, en 2008, il y avait 24 000 arrestations dans la rue et 3 000 enfermements. Donc, c'est-à-dire, déjà, on vérifie, on fait un tri. Aussi, donc, il y a une politique donc, de rentabiliser ce travail. Mais la question que je me pose, moi, est-ce que vraiment cette politique-là, est-ce que c'est ça qui va résoudre cette problématique d'immigration, c'est juste un moyen de dissuasion? Si c'est le cas, pourquoi punir les autres pour faire peur à d'autres? Il y a beaucoup de questions à se poser, à faire de la réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'on cherche avant tout? Juste faire plaisir à un électorat, parce qu'on sait bien qu'on peut jamais arrêter le flux migratoire et que peut-être il est temps de remettre cette problématique d'immigration au centre, de nos questionnements. Bon, malheureusement, j'avais d'autres choses à dire, mais c'est la fin de l'émission. Donc
alors, on peut faire peut-être une autre prochaine émission sur vraiment lancer le débat, donc pour un peu de politique sans frontières.
Alors, pour moi, c'est juste dernier mot. Je conseille toutes les activistes et tout le monde qui soutient les sans-papiers. Il faut arrêter cette exploitation de centres fermés. Au lieu de construire le centre fermé, il faut allouer la maison sociale pour loger les SDF. Alors, c'est arrêter cette expulsion, arrêter ce centre fermé. Alors, moi, fais ça, je vous remercie les invités et notre équipe. Alors, Madame Marion, la visiteur, notre invitée d'aujourd'hui, et Monsieur Patrick, et notre équipe, Gwendoline, Saïd, Céline, et Anas, et notre technicien Guillaume, et moi, Faisal.
Et Aurigan.
Et Aurigan aussi. Merci à l'éditeur.